France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Elle a été l'une des étoiles stars de l'Opéra de Paris et on reste étoile toute sa vie, puis directrice de la danse de ce ballet prestigieux pendant 6 ans. Souvent louée pour ses choix artistiques, parfois critiquée pour son management. Bientôt 2 ans après sa démission, Aurélie Dupont se raconte dans un livre, N'oublie pas pourquoi tu danses. Elle revient, elle si pudique, sur son parcours de danseuse, petit rat jusqu'au firmament, les blessures, les humiliations aussi parfois, mais aussi les moments de joie, une autobiographie sans phare. Bonjour Aurélie Dupont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. N'oublie pas pourquoi tu danses, c'est donc le titre. Ceci une phrase qu'on vous a dite, l'une de vos professeurs bien-aimées, elle, Madame Dédé. C'est une phrase que vous avez oubliée parfois.
Ça m'est arrivé. Liane Daïdé me l'a en effet dit quand j'étais très jeune. Une question comme ça que j'avais pas vraiment comprise, ou je m'étais pas vraiment attardée sur la réponse en tous les cas. Et cette question est revenue, telle un boomerang quelques années après, oui.
Pourquoi vous l'avez oublié cette raison?
Parce que je pense qu'il y a une forme d'urgence dans cette école de danse et dans la compagnie à vouloir avancer, travailler, avancer des concours chaque année. Il faut monter en hiérarchie. Il y a un truc un peu d'état d'urgence. Donc on a rarement le temps, en tous les cas en ce qui me concerne, j'ai rarement eu le temps de me poser et de me dire ok, bon, pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but de ce travail acharné? C'est quoi cette course pour monter en hiérarchie? Est-ce que vraiment t'en as envie? Et j'avais besoin d'un peu plus de sens. Et surtout, cette question, je me la suis posée après mon opération du genou, où j'ai vraiment eu besoin d'avoir une énergie décuplée pour reprendre la danse. Ouais.
On va en parler. Ça commence par ça, ce livre, qui va une opération juste après votre nomination étoile, et puis qui va vous empêcher de danser pendant presque un an. Le 18 mai 2015, à Garnier, il y a 9 ans déjà, presque. Est-ce que vous avez trouvé une nouvelle réponse à pourquoi tu danses, pourquoi vous dansez?
Le 18 mai le 18 mai, le sens de cette question était différent, c'est-à-dire que comme ma reprise après mon opération du genou, chaque spectacle était pour moi presque une surprise, en tous les cas aucun de mes spectacles a été anodin après ma reprise. C'est vrai que ce soir-là, je me suis dit pourquoi tu danses, je me suis dit tu connais la raison en fait, cette raison c'est la valeur de chaque spectacle additionné, et tu pensais en faire un, peut-être deux, et finalement tu les as tous faits jusqu'au 18 mai.
C'était le soir de vos adieux, le 18 mai 2015, c'était l'histoire de Manon. Musique de Jules Massenet, utilisée pour l'histoire de Manon, ce ballet de Kenneth Macmillan, avec lequel vous avez fait vos adieux, avec lequel vous avez repris la danse aussi. Quand vous entendez cette musique, Aurélie Dupont, qu'est-ce que vous ressentez?
Ah, je vois les pas, je vois la chorégraphie, ça me donne envie de me lever, de danser. J'écoute la respiration des musiciens, je la calque sur, sur la mémoire des pas qui passent comme ça. Très agréable.
Il y a beaucoup de musique que vous n'arrivez pas à entendre sans voir.
Plein. Bah, toutes les musiques sur lesquelles j'ai dansé, les pas reviennent immédiatement.
Le ballet des adieux et aussi celui de la Renaissance. On alterne entre joie et douleur dans ces 500 pages. Forcément, les épisodes douloureux marquent plus, presque demi-siècle de danse. Ça a d'abord été une joie plus qu'une souffrance. À certains moments du livre, on peut se poser la question, ce métier-là.
Oh non, c'est une joie. C'est une joie, bien sûr. Je suis pas maso à ce point-là. Je suis pas maso au point d'aimer la douleur et de m'en contenter. Non, je suis pas comme ça. Non, je pense que c'est surtout de la joie. Et d'ailleurs, d'avoir écrit ce livre m'a fait revivre avec beaucoup de plaisir toutes ces joies dont on parle là, enfin toutes ces dont on m'a parlé même, et d'une certaine façon de rire un peu de sourire ou de me moquer un peu des choses un peu plus difficiles que je raconte.
Il n'y a pas eu un côté cathartique à écrire ?
Non, pas du tout, pas du tout.
Alors pourquoi ? Pourquoi avoir voulu raconter cette vie de danseuse, des débuts de petits rats, même si ça commence par la blessure, jusqu'à vos adieux, vous qu'on connaît assez pudique ?
C'est vrai que je parle peu, mais vous voyez, quand je m'y mets, j'écris 480 pages. Non, mais j'ai eu envie d'écrire parce que la maison Albin Michel m'a contactée, me l'a proposée. Ils avaient déjà essayé de me proposer, ils m'avaient proposé il y a quelques années, j'avais refusé parce que j'avais pas le temps et je voulais faire les choses bien et prendre le temps d'écrire. Et donc j'ai eu envie d'écrire parce que j'ai eu envie tout simplement de partager ma passion, ce qui m'a forgé, ma patience, parfois mon impatience, mes coups de gueule, mes coups de joie. Et aussi écrire pour mes enfants qui connaissent finalement assez peu mon parcours, qu'il soit celui de la petite fille que j'étais, mais aussi de la danse des étoiles que je suis devenue. Et voilà, c'était une espèce de petit héritage par écrit.
L'enfance, précisément, elle revient un peu sans cesse, en définitive. Elle a été fondatrice de cette vie, de beaucoup de vies peut-être.
Oui, bien sûr, c'est vrai que mon éducation, et j'en parle beaucoup, et c'était important pour moi que j'en parle pour que les gens comprennent mieux. Après, mon caractère, comment je suis, comment je peux réagir, mon rapport au travail, à la rigueur. Donc oui, cette éducation, ça m'a forgé, ça m'a donné des codes, des règles, un cadre qui a fait ce que je suis aujourd'hui, je pense, oui.
C'était juste à côté d'ici, d'ailleurs, de la maison de la radio. Exactement. Dans le long premier chapitre consacré à votre blessure au genou, vous dites que vous ne pourrez plus danser. Vous dites « je danse, je vais redanser » parce que la danse est une nécessité vitale pour moi. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous alliez mourir sans danser ?
Ah, je pense, oui. Ah ouais, non, c'était... Bon, évidemment, lorsque j'ai réalisé que c'était vital, que ce besoin d'être en scène, qui est tellement particulier, tellement dur à parfois à expliquer, lorsqu'on est en scène, c'est une espèce de moment suspendu, c'est une parenthèse dans votre vie, une parenthèse dans une époque. Quand je fais Manon, quand je fais Carmen, quand je fais La Belle au bois dormant, tout d'un coup, on est propulsé, on est artistiquement par une musique, par une histoire, par un personnage qu'on doit construire, par une époque, par tout ça. Et donc, la nécessité, c'était ça pour moi, c'était de pouvoir avoir à mon moment dans ma vie d'être une autre, d'être peut-être une meilleure version de moi, d'être mille autres versions de moi, d'avoir des relations extra-conjugales avec un partenaire que j'aime de 19h30 à 22h15 et que j'aimerais le lendemain de la même façon, juste le temps d'un spectacle, d'une histoire. C'est quand j'ai compris que ça, c'était une nécessité. Oui, c'était difficile de penser que j'allais pouvoir passer à côté.
La scène est le seul endroit où vous êtes pleinement heureuse, vous l'écrivez. Oui. Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'apprends à vivre, à aimer la vie comme elle est, simplement. Ouais.
Vous avez continué pas mal d'ailleurs à danser occasionnellement depuis vos adieux.
Oui, j'ai redansé un petit peu, pas tellement. Hein. J'ai redansé un petit peu avec Diana Vishneva, on avait fait un pas de deux, le boléro avec Oana Harin. J'ai créé un solo avec Alan Lucianoyen, qui est d'ailleurs un chorégraphe que j'avais invité lorsque j'étais directrice de la danse. J'ai redansé un peu, mais vous savez, pour moi, c'est difficile d'être à peu près. Ça a toujours été. Donc quand la retraite c'est 42 ans, quand on danse après, il faut s'entraîner beaucoup, il faut être très régulière dans le travail pour profiter du spectacle et pour pas se blesser. Donc tout ça, en fait, j'ai eu envie un petit peu de lever le pied parce que j'arrivais pas à le faire aussi bien qu'avant.
On remonte le temps, beaucoup, dans ce livre. Tiens, on remonte le temps, c'était il y a 37 ans.
On est bien là. Plié, plié, appuyé, enfoncé le talon, pli. Et tire en l'air, tire. Un, deux. Allongez bien vos bras, allongez. Tirez sur les pointes. Accent, enlève votre accent. Et un, ne descendez pas. Tenez le corps bien droit, ne descendez pas, n'avancez pas. Droit. Allonge ton bras derrière, Aurélie. Et sortez bien les poings.
Allonge ton bras derrière, Aurélie. Vous avez 14 ans ici dans ce documentaire qui a été réalisé sur l'école de danse. Ici, l'une de vos professeur Jacqueline Brault, souvenir heureux ici.
Ah, elle était géniale. J'ai adoré cette femme. J'ai adoré cette femme. Pourtant, quand on entend la voix, on se dit, elle a pas l'air facile. Mais elle était rigoureuse. Et ce que j'ai aimé chez Jacqueline Brault, c'est qu'elle était à la fois sévère mais juste, quoi. Elle était, elle avait cette voix un peu, voilà, tant, allonge ton bras Aurélie. C'est vrai que le ton, on pourrait se dire, tiens, il est pas, c'est pas le meilleur ton, mais elle avait quelque chose de tendre aussi. Elle avait un équilibre tendresse et rigueur que j'ai beaucoup apprécié.
Et la gamine de 14 ans qui danse là, qu'est-ce que vous lui diriez ?
La gamine de 14 ans, je dirais, écoute et allonge ton bras droit. Non, non, je dirais, ne lâche pas et ça va pas être facile, mais continue et l'espoir fait vivre.
Alors, tendresse et rigueur, en revanche, il y a un certain nombre de professeurs qui n'ont pas cette tendresse, que vous ne décrivez pas. Dans votre livre, Aurélie Dupont, vous décrivez une atmosphère de terreur, de violence, la cruauté de certains professeurs, voire de qu'on qualifierait aujourd'hui de harcèlement. Claude Bessy, la femme à lunettes, écrivez-vous, l'ancienne directrice de la danse.
Non, c'est pas elle, la femme à lunettes.
Pardon ?
C'est pas elle, la femme à lunettes.
Ah, c'est pas elle ?
Non. Claude Bessy, c'est Claude Bessy. La femme à lunettes, c'est une autre femme.
Bon. Qui se confiait la semaine dernière sur France Musique, d'ailleurs, dans Les Grands Entretiens. Elle en prend pour son grade. Vous parlez de machine à broyer, une forme de sélection naturelle cruelle. Ça a changé aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, ça a changé. La société a changé. On ne peut plus faire ça. On ne peut plus parler aux enfants comme ça. Et puis là, c'était des enfants. Après, c'est une école d'élite. C'était les années 80. Là, il faut se remettre dans l'époque, le siècle dernier. Et c'est vrai que c'est une école difficile, parce que excellente. Et donc, évidemment, on attend une forme de perfection qui n'existe pas. Mais voilà, c'est la rigueur à l'extrême.
Mais ça a été un traumatisme.
Non, ça n'a pas été un traumatisme parce que vous voyez, quand j'en parle, je suis pas, j'ai pas l'air traumatisée.
Oui, mais on peut s'en sortir.
On peut s'en sortir.
Tel que vous le décrivez.
Oui, c'est difficile.
Vous parlez de haine de vous ?
Non, non, c'est difficile. Je peux pas dire que j'ai bien vécu cette période et j'en ai toujours parlé de cette façon. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, même lorsque j'étais plus jeune. Mais après, bon, voilà, une machine à broyer les faibles. C'est vrai que je pense qu'ils avaient une tendance à vous tester, à tester votre passion et tester le rapport que vous aviez avec votre envie de devenir danseur professionnel ou danseuse étoile. Je pense qu'il y avait vraiment une question du style est-ce que t'es bien sûr de vouloir faire ça avec ces petits pics qu'ils nous envoyaient. Je pense qu'il y avait un petit peu le... Voilà.
Une petite pique, mais enfin, c'est des commentaires dégradants sur le poids, des attaques sur le physique, des humiliations publiques. Vous dites qu'on a instillé un dégoût de vous-même. C'est terrible quand même.
Enfin, oui.
Comment
non,
on s'en sort ?
Le dégoût dont je parle, en fait, c'est que c'est une période qui a été difficile pour moi et pour toutes les jeunes filles qui étaient avec moi. C'est qu'à l'époque où le corps change, où je suis donc jeune fille et je deviens jeune femme, où je vois mon corps s'épanouir, on va dire, je dois le maîtriser, alors que je ne peux pas, puisque c'est quand même la nature et je ne peux rien faire contre ça. Je dois, à un moment donné, essayer de garder ce corps qui est aussi mon instrument de travail, en essayant de l'empêcher d'évoluer, de grandir, de s'épanouir, de s'ouvrir, et en même temps le garder pour être une danseuse qui travaille bien et qui sculpte son corps et qui travaille la musculature. Donc il y a une espèce d'entre-deux qui était pas facile, entre 15 et 16 ans, oui, qui était pas facile à gérer.
Pour s'en sortir, il y a l'amitié que vous citez, puis il y a la musique.
Thank you.
Des adolescentes dans le Sacre du printemps de Stravinsky, l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Philippe Jordan. Là aussi, Aurélie Dupont, des images reviennent.
Alors là, c'est pire que Massenet, parce que comme j'ai dansé quand j'étais jeune danseuse, la version de Nijinsky, puis la version de Pina Bausch, là j'ai carrément deux chorégraphies qui se mélangent.
Dans votre livre « N'oublie pas pourquoi tu danses », il y a cette réflexion tout début, sur le sacre du printemps et le sacrifice de l'élu. C'est mon histoire, ce sacre, dites-vous, celle de toute danseuse élue pour être étoile, autant dire pour mourir à la vie profane, tant il faut de temps, de travail, de souffrance, d'échecs aussi, dont certains ne se remettent jamais. Êtes-vous une sacrifiée, Aurélie Dupont ?
Non, je dirais pas ça. Mais je parlerai davantage de don de soi. C'est-à-dire que quand on est danseuse, et même pas forcément dans ces étoiles, parce que la rigueur du travail et du travail bien fait est la même pour une quadrille ou une dans ces étoiles. Mais le don de soi, le don de se donner en scène entièrement, totalement, parfois même jusqu'à la transe, quand j'ai dansé le boléro de Béjart ou quand j'ai dansé justement l'élu du Sacre du printemps de Pina Bausch, je peux vous assurer qu'à un moment donné, on n'est plus là, en fait on est ailleurs, et cet ailleurs, on n'arriverait presque pas à le décrire. D'ailleurs, quand je repense au boléro à la fin de l'élu, il m'arrivait de ne plus me souvenir des dernières minutes. Je ne me souvenais plus, mon corps avançait, mon corps dansait comme une chorégraphie qui est vraiment tatouée dans mon corps, mais je n'avais plus de souvenirs. Donc quand je parle de sacrifice, il y a une espèce de chose où, vous voyez ce que je veux dire, un don d'être en scène et d'être comme, d'être complètement à 3000% jusqu'à presque parfois la transe.
T'es plus conscient.
Voilà, mais en inconscience très très agréable.
Vous venez de la citer, le Sacre du printemps, c'est aussi elle.
Ich meine, es sind irgendwo Leute, wo ich irgendwo spüre, die was Starkes fühlen, sich vielleicht
je pense qu'il y a quelque part des gens chez lesquels je sens qu'ils sont si sensibles et si forts que leur tendance est au fond triste. Et dans la tendance n'est pas quelque chose de superficiel. Mais le travail ensemble est souvent très difficile. Mais d'une certaine façon, j'aime ces gens. Mais souvent, ils pensent que je ne les aime pas, que je les rends laids. Et moi, je pense que je les rends beaux. Parce que pour moi, beau, ça veut dire honnête. Ça veut dire quelque chose d'intérieur, profond. C'est très différent. Ça se frotte, ça se contredit. Et je pense qu'ils m'aiment quand même. Parce qu'ils vont toujours plus loin. Mais c'est très difficile. Souvent, en tous les cas.
Aurélie Dupont, ces mots de Pina Bausch en 1992, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Très très émouvant, et c'est tellement juste. Évidemment, quand je les écoute, je pense à ma rencontre avec elle, mais je pense aussi à tous les danseurs et les danseuses, toutes les danseuses.
Vous dites Pina m'a réparé.
Ah oui.
En quoi ?
Oui. En ce qu'elle dit. C'est-à-dire que c'est pas facile, mais quand j'ai rencontré Pina Bausch, j'étais à un moment de ma vie de femme et d'artiste, j'étais un peu paumée, j'avais pris un chemin très technique, où il y avait vraiment pas beaucoup de place à l'artistique, et ça m'arrangeait bien d'ailleurs, parce que je me cachais derrière cette technique, et j'étais déjà première danseuse, donc juste avant le titre de danseuse étoile. Et très vite, je me suis dit, si je continue dans cette voie-là, non seulement je vais m'embêter, mais en plus, les choix artistiques qu'on va me proposer ne vont pas me séduire, me plaire, me contenter. Et lorsque j'ai rencontré Pina Bausch, elle est arrivée comme un ange à l'Opéra de Paris. Elle a fait des auditions pendant des semaines. Elle a vu 153 danseurs, donc la hiérarchie, elle s'en foutait. Et elle a pris, c'est vrai, je crois, une trentaine de danseurs, comme elle dit, un peu ébréchés, un peu abîmés, un peu fragilisés. Et moi, je faisais partie de ces danseurs-là, et elle a vu en moi, et c'est ce qu'elle m'a dit, et c'est ce qu'elle dit dans l'extrait que vous avez passé, elle a vu en moi une forme de fragilité, de faiblesse, et qu'elle a vu, et que moi, je voulais cacher. Donc, elle m'a scanné d'une manière absolument exceptionnelle.
Vous dites vous cacher, d'ailleurs, hein, quand elle
vous a scanné. Oui. Elle m'a vu, elle m'a vraiment scanné, et donc, c'est grâce à elle que j'ai pu, à un moment donné, baisser les armes et m'ouvrir un peu.
Et là, alors, cette musique.
Première entrée de Kitri, qu'est-ce que j'avais peur. C'est
Don
une variation
Quichotte.
Qui est... Ouais, Don Quichotte, Minkus. Très dure variation, très très dure. C'est-à-dire qu'on commence, on rentre comme un boulet de canon, mais des super souvenirs, et puis surtout un ballet...
sur lequel vous avez été nommé.
Oui.
Un ballet de Nourayev. Et pourtant, sur Nourayev, il y a des choses un peu ambivalentes. Enfin, vous êtes une étoile de l'après-Nourayev. Vous dites parfois qu'on parle trop de Nourayev comme d'un dieu, non?
Non, je ne dis pas qu'on parle trop de Nourayev. Je dis parfois qu'on a l'impression qu'avant Nourayev, il n'y avait pas de directeur à l'opéra et qu'il n'y avait pas de répertoire. Ce qui est un peu vrai. Pourtant, il y a plein de choses à l'opéra maintenant. Et aussi, après-Nourayev, moi, je fais partie de l'après-Nourayev, bien que... Je sois quand même la dernière danseuse étoile à avoir dansé avec des danseurs étoiles de la génération de Nourayev. Donc ça veut dire que j'étais un buvard et qu'ils m'ont nourri au biberon de Nourayev, bien que je ne l'ai pas connu. Mais c'est vrai que c'était une période, c'est un peu, les gens parfois appellent un petit peu, considèrent comme si c'était l'âge d'or en fait, ces étoiles de Nourayev. Et comme moi, nous on est arrivés avec d'autres danseuses étoiles après, on a l'impression qu'on s'est fait un peu plus seul.
Il y a votre vie de danseuse, mais il y a aussi la femme, votre être, Aurélie Dupont, ce caractère timide. Vous dites, je me souviens de moi petite comme d'une erreur, et plus loin, vous parlez d'une cassette audio sur laquelle vous êtes enregistrée. Vous devez décrire des cadeaux de Noël pour vos grands-parents. Vous balbutiez, et ensuite vous avez écouté cette cassette des dizaines, des centaines de fois. Pourquoi vous faire du mal comme ça?
Parce que parfois, les souvenirs d'enfance, on peut les imaginer différemment, peut-être
les réinventer.
Les réinventer ou les rendre plus beaux ou pires parfois. Et c'est vrai que cette cassette, je me souviens très bien, c'était quand je vivais aux États-Unis et on fêtait Noël et on avait des cadeaux de venus de France et on devait chacune remercier notre famille pour les cadeaux. Donc ma grande sœur commence à prendre la parole, elle s'exprime très bien, très clairement. Ma petite sœur, folle de joie, on sent l'énergie, on sent le soleil, on sent le plaisir. Et moi, je n'arrive pas à sortir de mots, tellement je suis timide. J'ai une voix qu'on entend à peine. Et quand j'ai réécouté cette cassette, je me suis dit, ah oui, donc le souvenir que j'en ai est presque plus doux que la réalité de ce que j'entends.
Timide, réservée et directrice de la danse de la compagnie pendant 6 ans, ça pouvait aller ensemble, ça?
Dieu merci, j'ai évolué et je me suis soignée un peu.
Vous qui dansez pas, je reprochais la froideur, la rudesse de certaines et certains professeurs. Certains vous l'ont reproché ensuite, ça vous a blessé?
Non, ça m'a pas blessée parce que je me suis dit qu'ils me connaissaient pas bien et c'est difficile de prendre le temps de connaître quelqu'un, surtout quand c'est quelqu'un qui est pudique et timide.
Cette saison, c'est encore votre programmation qu'on voit à l'Opéra de Paris?
Oui.
Vous y allez toujours?
J'y vais moins, j'y retournerai. J'y vais moins pour plein de raisons, parce que l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, c'est l'amour de ma vie. Et je l'ai quitté, j'ai décidé de le quitter.
Fâché?
Pas du tout fâché. Vous savez, moi, j'avais pas de mandat.
Mais et eux?
Non, non plus. Demandez-leur, mais je ne crois pas. Et je n'avais pas de mandat, donc j'ai décidé de partir. Et quitter un grand amour, ça demande un peu de temps pour revenir. Voilà, donc je prends ce temps.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
On va se quitter en musique, Aurélie Dupont. On va écouter quelques musiques, certaines que vous avez choisies, d'autres nous. Et puis, quand le micro est ouvert, vous nous dites ce que ça vous évoque. Première musique.
Oui, ça c'est une jeune compositrice, musicienne, violoniste, pianiste qui s'appelle Poppy Uckroud, qui est une artiste anglaise que j'ai découverte sur mes réseaux musicaux et que j'adore en fait. J'adore Fauré. J'ai hésité avec Fauré et l'autre c'était Bach, le prélude en si mineur que j'adore. Mais elle, je l'ai choisie parce que déjà elle a 42 ans et qu'elle est là et qu'elle crée. Et je trouve qu'elle a un talent incroyable et je l'ai contactée et elle m'a prêté ce morceau sur lequel j'ai créé un duo pour deux danseurs que j'adore et donc voilà, je voulais lui rendre hommage ce matin.
Deuxième musique.
Ça. Oh là là, le grand défilé de l'Opéra de Paris, mon Dieu.
Les Troyens, la marche de Berlioz.
Bien sûr, la marche de Berlioz, oui, ça me rappelle plein de souvenirs, évidemment. Des souvenirs de tout petite quand j'avais 10 ans, et puis des souvenirs de plus grande quand j'étais dans ces étoiles.
C'est le défilé où toute la compagnie défile à Garnier, des petits rats jusqu'aux étoiles.
Exactement, donc c'est à peu près 300 personnes en scène, donc ça fait beaucoup, 150 de l'école, 150 dans la compagnie.
C'est une musique qui donne la boule au ventre.
Ah oui, j'ai tout de suite le trac, j'ai les mains moites là.
Allez, on va se quitter avec ça.
Ouais, ça c'est la Dame aux Camélias de John Neumeyer, Chopin, magnifique. Deuxième acte, on est au sol, c'est la campagne.
Vous faites toujours du piano ?
Non, mais j'ai arrêté, j'en ai fait plus jeune, mais là j'en fais pas, j'ai fait le choix du mouvement.
Allez, on a encore le temps pour une dernière musique que vous avez choisie.
Coltman, reprise d'Al Green, que j'adore, et alors j'adore sa voix, et je me suis dit qu'à cette heure-ci, à 9h, je trouvais que c'était parfait de finir là-dessus. I'd expect a whole lot of love out of you.
Simply Beautiful, c'est pas mal pour se quitter à 9h. Merci Aurélie Dupont.
Merci.
N'oublie pas Pourquoi tu danses chez Albin Michel. Un deuxième tome à venir?
Peut-être.
À réécouter sur francemusique.fr.